carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Jean Tullard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'époque napoléonienne et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Ce que les mordus de cinéma connaissent également de vous, c'est votre travail titanesque de composition et d'écriture de plusieurs dictionnaires du cinéma, l'un en 3 volumes consacrés au film, un autre aux acteurs, un autre encore aux réalisateurs et plusieurs autres même.
Plusieurs autres, j'ai fait aussi dictionnaire du roman policier. Enfin, c'est vous dire la diversité de mes occupations. Concernant ce qu'il est convenu d'appeler la contre-culture, car en parlant cinéma, nous sommes, je vous le rappelle, dans la contre-culture, même si l'Académie des Beaux-Arts a créé, mais très tardivement, une section cinéma.
C'est donc à la croisée de deux de vos passions, l'histoire et le cinéma, que nous allons évoquer aujourd'hui, une des grandes sources d'inspiration cinématographique, j'ai nommé l'Égypte. L'Égypte qui inspire donc en fait les tout premiers films de l'histoire du cinéma. Citons par exemple Cléopâtre de Georges Méliès en 1899. Oui. Citons encore Antony et Cléopatra, un film muet américain tourné en 1908 et co-réalisé par John Stuart Blackton et Charles Kent, selon l'œuvre de Shakespeare. Et puis ensuite, il y a un nombre incalculable de films qui ont été tournés. Pourquoi est-ce que l'Égypte inspire les tout premiers films du cinéma ?
Alors, effectivement, si le cinéma avait été inventé par Archimède, on n'aurait pas pu raconter l'histoire de l'Égypte. Il faut attendre, après la mort de la civilisation des pharaons, il faut attendre Champollion, c'est-à-dire le 19e siècle, pour que l'on connaisse l'histoire de Ramsès II, de Toutankhamon. Par ailleurs, l'expédition d'Égypte, au temps de Bonaparte, donc fin du 18e, début 19e, l'expédition d'Égypte a mis à la mode une civilisation pour laquelle on n'avait jusqu'alors eu qu'un intérêt très relatif. C'est-à-dire que l'on a vu le mobilier, les sphinx, les pyramides, tout devenir éléments de décoration. Le phénomène de fascination de l'Égypte ancienne était donc un phénomène récent qui stimulait davantage la curiosité que pour d'autres civilisations qui avaient été parfaitement connues depuis très longtemps. Il faut bien préciser qu'il y a dans l'Égypte antique deux Égyptes. Il y a l'Égypte des pharaons et puis il y a l'Égypte de Cléopâtre. Car Cléopâtre était-elle connue ? Et vous connaissez le fameux mot de Pascal, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face du monde en eût été changée. Et donc, vous voyez que pour Cléopâtre, se posait d'emblée, dès qu'on a voulu l'aborder au cinéma, le problème du nez de Cléopâtre. Et donc, les actrices que l'on va choisir, il faudra les choisir essentiellement en fonction de leur nez. Dans le cas de la civilisation ancienne, celle de Ramsès II, de Toutankhamon, là, c'est une découverte plus récente. Il y a eu beaucoup de films parce que les pharaons, les découvertes archéologiques, la tombe de Toutankhamon, rappelez-vous les malédictions qui pesaient sur les archéologues, tout cela donnait un monde englouti et que l'on n'avait jamais abordé. Donc c'était très neuf. Lorsque on découvre véritablement les momies, vous voyez comment le cinéma d'épouvante peut s'emparer de la momie. Parce que la momie, c'est qui ressuscite aux périodes de pleine lune, eh bien, j'ai vu, je dois vous dire, et je suis peut-être l'un des rares membres de l'Institut, enfin, je ne veux pas être présomptueux, avoir vu toutes les versions possibles et imaginables d'horreur sur la momie. Depuis la momie 1932 de Karl Freund, il y avait aussi les yeux de la momie avant au temps du muet, où c'est précisément un grand prêtre d'un temple égyptien qui a fauté, qui a eu pour coupable, Imhotep, et qui est condamné à être enveloppé de bandelettes vivants et mis dans un sarcophage vivant et qui ressuscite aux époques de pleine lune. Et bien entendu, le thème est facile à trouver. Un explorateur arrive, qui cherche précisément la tombe d'Imhotep, il la trouve, mais c'est la période de pleine lune et la momie l'étrangle. Et bien entendu, elle se fait aussi les griffes sur tout l'entourage. Bref, voyez comment la momie était devenue un élément d'horreur récent, puisqu'avant, il n'y avait que le roman de la momie de Théophile Gautier.
Il y a plus de 200 films qui sont consacrés à l'Égypte et l'Égypte ancienne, oui, essentiellement. Et pour la plupart, on va peut-être mettre de côté quelques exceptions, la plupart, oui, sont quand même des péplums ou des, oui, films d'horreur, comme vous l'avez dit, ou au mieux des films policiers, en fait.
Alors oui, il y a effectivement aussi des films policiers, on a volé des momies, etc. Et puis alors, ça s'étend aussi à l'eau d'autres domaines, Belphégor, par exemple, le fantôme du Louvre. Mais ce qui est un, il y a aussi des films qui se sont voulus ambitieux. On peut penser, par exemple, à Terre des Pharaons, 1955, qui est un film d'Howard Hawks qui évoque la construction des pyramides. On a confié le scénario à William Faulkner. Et William Faulkner, bon, l'Égypte, c'était le cadet de ses soucis, William Faulkner, prix Nobel de littérature, mais enfin qui, comme beaucoup de prix Nobel de littérature, songeait à Hemingway aussi, écrivait des scénarios pour gagner sa vie, et qui n'y croyait pas beaucoup. Et nous avons le témoignage, c'est extrêmement intéressant. On a un témoignage, un livre qui a été écrit sur le tournage de Terre des Pharaons. L'auteur du livre raconte que Howard Hawks, dès 8h du matin, était déjà à sa première bouteille de whisky et était complètement ivre. Et il écrivait au fur et à mesure le scénario. Et il ne veut plus très bien distinguer les pharaons dans son état éthylique des paysans du Tennessee. Et vous avez des scènes extraordinaires, notamment cette scène que je cite souvent, où le pharaon dit à la pharaone, alors que le pharaoné est à côté, « Il est tard, il faudrait que le petit aille se coucher. » Ce qui, évidemment, n'est pas... Ça se faisait peut-être, hein, enfin, j'en sais rien, dans les ménages de pharaon, mais il faut que le petit aille se coucher. Et alors, donc, on cherche un appareil de télévision dans le champ, hein, vous savez, du décor, en se disant, ben, ça, apparemment, Faulkner n'avait pas la moindre idée de la façon dont les pharaons parlaient aux pharaons. Bref, mais Terre des Pharaons est une œuvre ambitieuse. Ratée, mais ambitieuse. Il y a un très beau film, alors, qui est consacré à Akhenaton. Akhenaton, vous savez, c'est le pharaon qui a voulu simplifier la religion égyptienne. C'est l'un des premiers à vouloir s'orienter vers le monothéisme. Et Michael Curtiz lui a fait un film qui s'appelle L'Égyptien, en 1954, qui contient des images très belles et qui, mon Dieu, traduit bien, enfin même si... Michael Curtiz, vous savez, c'était, là encore, il faut voir ce qu'était Hollywood, c'était un réalisateur hongrois qui avait fui les persécutions antisémites et qui s'était retrouvé à Hollywood, mais qui ne parlait pas très bien l'anglais et qui se piquait de vouloir le parler bien. Et donc, il a notamment tourné Robin des Bois, la fameuse version avec Errol Flynn. Et dans cette version, il devait y avoir une scène avec des moines. Et il dit à son assistant, voilà, il me faudrait 500 moines. Et dans son anglais parfait, il dit 500 monkeys, c'est-à-dire en anglais des singes. Monks, c'est les moines, Simon. Mais il prononce monkeys. L'assistant, on n'a pas l'habitude de discuter des ordres de M. Michael Curtiz, se dit, mince, 500 singes. Mais quand il revient le lendemain sur le plateau, il y a des chimpanzés, des gorilles, le petit parrainier, tout ce qu'il pouvait trouver à Hollywood, de monkeys au lieu de monks. Donc, c'est vous dire que la vision de l'Égypte par des gens comme Faulkner, ivre mort, par Curtiz, qui baragouinait l'anglais, tout ça, évidemment, ne peut donner que des chefs-d'œuvre, mais des chefs-d'œuvre baroques, kitsch, enfin, qui sont complètement délirants. Et le péplum, c'est aussi, depuis certains films de Pharaon, jusqu'aux légions de Cléopâtre de Cotta Favi, c'est aussi un genre complètement délirant. Bref, l'image que donne le cinéma de l'Égypte, c'est une image à faire dresser les cheveux sur la tête de M. Leclan, bien qu'il n'en ait plus beaucoup à l'heure actuelle.
Est-ce qu'il y en a quand même une évolution dans l'évocation historique? Est-ce qu'il y a des films? Est-ce qu'au fur et à mesure, on a essayé d'aller vers un retour historique plus véridique, plus proche
Non, en fait, l'Égypte, c'est le domaine de l'imagination. Mais il y a eu aussi des films ambitieux qui se sont emparés de l'Égypte ancienne pour transférer c'est l'histoire ancienne dans le monde contemporain. C'est le fameux pharaon de Kavalerovitch qui transpose le pouvoir absolu du pharaon dans les dictatures communistes de l'époque. Et Pharaon, c'est aussi bien Staline que Charlevski, etc. Donc il y a l'utilisation de ce monde ancien sur lequel flottent quand même nos connaissances, transposé dans le monde moderne et servant de message. Tout à coup, le pharaon devient un symbole politique contemporain.
D'après votre regard d'historien, comment se fait-il qu'il y a aussi peu de soucis d'historicité dans des films sur l'Égypte ancienne ?
Parce que personne n'a jamais rencontré Ramsès II, sauf en momie. Le champ est beaucoup plus libre à l'imagination que si
Faute
vous faites
source.
Un film sur la Seconde Guerre mondiale. Vous ne pouvez pas prendre de grandes libertés et montrer Hitler couchant avec Clara Petacci ou Mussolini avec Eva Braun. Bon, ça, c'est pas possible. Tandis que dans le domaine des pharaons, Nefertiti, bon, on peut lui faire faire ce qu'on veut, bien entendu, on peut pas la faire coucher avec César, parce que c'est pas l'époque. Mais vous avez une très grande liberté. Plus vous êtes dans les temps anciens, plus vous êtes libre, votre imagination est libre, alors que quand on approche d'époque contemporaine, évidemment, ça ne marcherait pas. Il y a donc très peu de respect. Le rôle du conseiller historique, que je crois qu'il y en a eu rarement sur les films de Peplum, la preuve c'est que le conseiller historique pour Terre des Pharaons, c'est Faulkner, qui je crois n'avait jamais mis les pieds en Égypte. Le rôle du conseiller historique est tout à fait vain. Il faut bien dire que même pour des... C'est pas comme la Révolution de l'Empire, j'étais conseiller historique, je n'ai jamais réussi à imposer mes idées. Je vous prendrai qu'un exemple qui était un film historique sur la Révolution française, où je fais remarquer que, eh bien, lors du procès de Louis XVI, on voit Louis XVI dans le champ. Alors, vous savez, quand les députés montent à la tribune pour prononcer la sentence, Louis XVI est au temple. Là, il est toujours à la convention. Je fais remarquer, on me dit, oh, c'est embêtant parce qu'il faudrait couper dans le champ. Il est dans le champ, mais alors il y a une séquence, donc ça nous démolirait tout, il faudrait tout retourner. Bon. Ensuite, je fais remarquer que Sieyès monte à la tribune et déclare, parlant de la sentence à rendre, monte à la tribune et il dit la mort sans phrase. Dit au réalisateur, mais c'est complètement absurde. Il n'a pas dit la mort sans phrase. Ah ah, me dit-il, j'ai le moniteur là sous les yeux, j'ai la photocopie. Regardez, il me montre, il y avait la mort, Sieyès de point, la mort, entre parenthèses, sans phrase. C'est-à-dire qu'il est tellement mort de peur qu'il n'a pas, il n'a pas fait de phrase. Il dit la mort. Ah, je n'y voyais bien, c'est pas. Ah, me dit-il, c'est très ennuyeux parce que le comédien n'a que cette réplique. Si il ne dit plus 100 phrases, son cachet est coupé en deux. Bon, c'est vous dire que, alors pour l'Égypte, vous imaginez toutes les libertés que l'on peut prendre dans les rapports entre Nefertiti, Akhenaton et compagnie. Hein, ça.
Donc c'est d'autant plus sujet à calquer ou à transposer nos propres représentations,
oui.
et des représentations de coloniaux, disons-le.
Ah ben, c'est évident. Alors là, nous avons l'Égypte ancienne, mais il y a aussi dans le cinéma l'Égypte contemporaine qui a été évoquée aussi par le cinéma. Là, ou bien ce sont des polars, comme par exemple Cairo, c'est les bijoux du pharaon, c'est le vol des bijoux de Toutankhamon au musée du Caire. Bon, alors vous avez une vision de l'Égypte qui est traditionnellement, qu'il s'agisse de films français, de films anglais ou de films américains, toujours exotique. C'est le polar exotique, c'est le thriller, on ne conçoit pas l'Égypte autrement que sur fond de pyramides, des bagarres, des vols, etc. C'est une histoire tout à fait classique qui pourrait se dérouler à Pigalle, mais on choisit l'Égypte parce que c'est plus exotique et parce que, surtout dans les années 30, 50 encore, on n'allait pas beaucoup en Égypte. Donc, on disait aux spectateurs, vous voyez, vous avez une intrigue, mais vous voyez les pyramides, regardez. Puis alors, le chameau est un animal exotique, on n'en voyait qu'au Jardin des Plantes. Donc, c'était, là encore, une vision, voyez, finalement, dépréciée de l'Égypte. L'Égypte n'a pas eu de chance, véritablement, au cinéma, entre le péplum et le polar, entre les légions de Cléopâtre et les bijoux du pharaon.
Donc c'est un cinéma essentiellement européen et américain.
Tout à fait.
Il y a tout de même un cinéma égyptien.
Oui,
qui est prolifique.
Oui, alors lui, c'est autre chose, hein, bien entendu. Nous venons de voir la vision de l'Égypte par le cinéma occidental. Il nous faut maintenant, effectivement, parler de la vision de l'Égypte par le cinéma égyptien.
Est-ce qu'il est très différent ?
Ah, tout à fait. C'est un autre monde, le cinéma égyptien, sauf quelques réalisateurs très peu influencés par le cinéma occidental. C'est un autre monde et c'est un très vieux cinéma, puisque il a commencé la première projection de film en Égypte a eu lieu le 5 janvier 1896 dans un café du Caire. Et la première salle s'est ouverte en avril 1900. Mais à ce moment-là, l'on passait des films occidentaux, ainsi que nous avons la trace de la projection au Caire en 1906 de La Passion du Christ. Et La Passion du Christ, bon, peut-être dans une terre d'islam, encore que le Christ soit un des prophètes pour l'islam. Bref, bon, on passait une Passion du Christ et il faut attendre 1912 pour que les premières bandes égyptiennes soient tournées. Ça s'appelle Dans les rues d'Alexandrie et les techniciens sont essentiellement des Italiens ou des Grecs. Alors, le premier véritablement film populaire s'appelle Leila ou Laila, avec l'immense actrice Aziza Amir. Je dis immense actrice de confiance, puisque je m'empresse de vous dire, je n'ai jamais vu ce film muet. Laila, qui est perdue, pas plus que La fille du Nil qu'elle a tournée. C'est peut-être conservé dans des cinémathèques du Caire, mais j'en suis pas sûr. Vous savez que les films muets anciens étaient sur support nitrate et donc très facilement inflammables. Donc on ne les gardait pas, et à partir du moment où est arrivé le parlant, on a détruit à peu près 80%, que ce soit en Occident, en Égypte, partout, de la production muette. C'est pour ça qu'il y a tant de films muets perdus, dont on n'a plus que des photos. Alors, avec le parlant, le cinéma égyptien va trouver tout à fait sa voie, parce que le cinéma égyptien va être un cinéma chantant. On chante énormément.
Des comédies musicales.
Ce sont essentiellement des comédies musicales avec danse du ventre.
Donc sentimentale.
Bien entendu, l'héroïne est toujours une sentimentale, ou elle chante pour exprimer ses sentiments, ou c'est une chanteuse et danseuse professionnelle qui chante, mais qui aura toujours des ennuis. Alors il y a des actrices qui se font connaître à ce moment-là, comme Laila Mourad, qui ne répond pas aux critères des stars occidentales. C'est pas du tout ce style. Rien à voir avec Grace Kelly, Marilyn Monroe ou, je ne sais pas, Rita Hayworth. Elle a une voix rock, elle fait une danse du ventre, elle est habillée. Bref, vous voyez que c'est un cinéma populaire.
Qui fait penser au cinéma de Bollywood ? Est-ce que
tout
la comparaison...
Tout à fait. C'est la même chose, c'est-à-dire que l'on chante énormément. Les films indiens chantent. On a pu voir, il n'y a pas si longtemps que ça, mais dans une rétrospective, un film sur Alexandre le Grand. Alexandre le Grand et Aristote chantent. C'est-à-dire qu'Aristote dit à Alexandre le Grand, il faut se méfier des femmes, il ne veut pas qu'ils se marient, et il le lui dit en chantant. Et Alexandre lui répond en chantant. Alors évidemment, cela peut surprendre, mais pour les Indiens, d'ailleurs c'est un film assez extraordinaire, et c'est valable aussi pour le cinéma égyptien, parce que ces cinéastes réutilisent des films occidentaux en stock shot. Et dans Alexandre le Grand, la bataille d'Alexandre le Grand contre Poros, c'est l'Indus, cette grande bataille d'éléphants, parce que les soldats d'Alexandre découvrent les éléphants indiens, cette bataille, elle est pompée un film occidental, Scipion l'Africain, qui avait été tourné en 1939. Et donc, tout à coup, vous voyez des éléphants carthaginois qui écrasent des Romains dans un film qui est censé parler d'Alexandre le Grand. Pour vous dire que si nous ne sommes pas très respectueux à l'égard de l'histoire égyptienne, les Égyptiens prennent aussi, et les Indiens prennent aussi beaucoup de liberté à notre égard, c'est la règle du jeu, on ne leur reprochera pas. Donc il y a des films chantants, des films historiques, il y en a eu plusieurs, dont un qu'on a vu plusieurs fois, Naissance de l'Islam. Il y a aussi le film, on y reviendra peut-être, de Chahine sur Saladin. Bref, il y a des films historiques, des comédies musicales, mais surtout des mélodrames. Surtout à partir du moment où les tabous touchant la femme ont été levés. Qu'on le veuille ou non, le cinéma a quand même été un élément d'émancipation de la femme en terre d'islam.
Vous situez ça dans quelle période, vers quelles
années? Alors, ça commence dès le début du cinéma. Ce sera surtout à partir de 1952, à partir de l'avènement de Nasser, où la société se sécularise beaucoup plus. Et donc, désormais, les tabous qui pouvaient exister concernant les femmes ne sont pas voilées. Imaginez un film où tout le monde serait voilé, ce serait une catastrophe.
Il en existe aujourd'hui.
Mais il en existe, mais enfin, bon. La révolution de 1952, c'est-à-dire l'avènement au pouvoir d'une moyenne bourgeoisie nassérienne, a entraîné une évolution donc des mœurs, une évolution du cinéma, avec la création notamment d'un institut supérieur du cinéma, des subventions au cinéma, et donc aussi, et là l'influence occidentale a été très sensible, des films néo-réalistes, c'est-à-dire des films consacrés aux classes populaires, à la misère du peuple égyptien. Car les premiers films, ceux des années 30, 40, 50, avant Nasser, c'était des films de divertissement. Si vous voulez aller au cinéma pour vous divertir, si vous avez pendant une heure et demie une brave dame qui fait sa lessive, bon, ça ne vous fait pas rêver. Bon, il faut qu'il y ait une femme merveilleusement belle, merveilleusement riche, qui a des malheurs. Bon, alors à ce moment-là, vous entrez dans le jeu. Si c'est une femme du peuple comme vous en croisez partout et qui lave son linge, ça ne fait pas rêver. Donc, tandis qu'avec, à partir de 52, avec l'influence occidentale du néo-réalisme, on s'est orienté vers ce que j'appellerais un misérabilisme, qui a été valable aussi pour l'Inde. Et les films indiens ou égyptiens présentés dans les festivals étaient des films misérabilistes, néo-réalistes, qui montraient des petits garçons malheureux, des femmes dans la misère, contraintes de se prostituer, etc., etc., parce que ça marchait très bien dans les festivals occidentaux où les gens avaient l'arme à l'œil, ça permettait de dénoncer la misère du tiers-monde, enfin, vous voyez, tous les messages politiques ça impliquait. Et les réalisateurs égyptiens comme indiens qui n'étaient pas bêtes envoyaient dans les festivals ces films, ce qui fait que pendant un temps, on a eu l'impression que le cinéma égyptien, c'était le voleur de bicyclette, ou je ne sais pas, Bertaudet et autres, et alors que le vrai
celui qui marche
égyptien, celui qui marche,
Égypte.
Ce sont les comédies musicales, chantantes ou des danseuses du ventre, assez adipeuses, se trémoussent et chantent.
Dans tout ce cinéma prolifique, il faut évidemment citer la figure de Youssef Chahine, qui lui a un souci aussi d'historicité. Qu'est-ce que vous pensez du film d'Adieu Bonaparte?
Alors, bien entendu, nous, avec Chahine, nous avons un très grand réalisateur. Un réalisateur qui apparaît il commence en 1950. Il commence au fond, c'est vrai, par des films plutôt dans le courant que je vous évoquais, néo-réaliste. Son grand chef-d'œuvre, c'est 58, Gare centrale. Et il dit que ce qu'il importe, c'est de mettre en lumière la force de vivre d'un peuple. Et donc raconter la vie de l'Égypte. Mais il a été aussi un homme de grande culture, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Nous avons fait même un voyage en avion au retour d'un festival cinématographique. C'est un homme de grande culture qui a tourné en 1963 un Saladin. Saladin, l'adversaire des croisés, l'adversaire de Richard Cœur de Lion, Frédéric Barberousse et Philippe Auguste. Et il donne de Saladin une vision qui est à l'opposé de celle des croisades de Cécile Bédemille. Et Saladin, c'est un peu Nasser, hein. il ne faut pas se cacher, hein. C'est le héros de l'islam pur et dur. C'est un film historique intéressant, attachant. Puis il est revenu à des films plus néo-réalistes comme Le Moineau en 1973, Alexandrie, pourquoi pas, en 1978. Et en 1985, Jacques Lang, qui a toujours été passionné de cinéma et qui s'est forcé de faire travailler les grands réalisateurs en leur donnant des commandes françaises. Jacques Lang lui a demandé, en 1985, un film sur l'expédition d'Égypte. Ce que Chaïne a accepté. Alors, bien entendu, ça a donné Adieu Bonaparte. Adieu Bonaparte est un film assez étonnant. D'abord parce que le rôle de Bonaparte est tenu par Patrice Chéreau, très grand acteur de théâtre, mais qui ne ressemble guère à Bonaparte. Il y a eu pire, il y a même eu notre confrère, dont je salue la mémoire, Gérard Houry, qui a interprété le rôle de Napoléon dans La Belle Espionne. Bref, Napoléon a connu toutes les misères possibles, imaginables. Mais enfin, Patrice Chéreau, il est vraiment, si vous me permettez cette expression qui n'est pas dans le dictionnaire de l'Académie, gratiné dans le rôle de Bonaparte. Et le personnage central du film n'est pas Bonaparte, c'est Caffarelli. Caffarelli, interprété par Piccoli, qui est un général cultivé qui a déjà perdu une jambe dans les campagnes de la Révolution, ce qui fait qu'on disait, lorsque les soldats étaient traversés par la nostalgie et le mal du pays, lui, Caffarelli, il n'a pas ces mêmes problèmes, il a toujours un pied en Europe. Effectivement, puisqu'il avait laissé une jambe sur le continent. Donc, Caffarelli, tel qu'il est représenté, est l'homme qui essaie de comprendre la civilisation égyptienne en même temps qu'il apporte les lumières à une civilisation qui était engourdie sous la domination des Mamelouks. Et le film se veut un contact entre deux civilisations, l'islam d'un côté et les Lumières, puisque c'est la Révolution française maintenant, ce n'est plus les Lumières de l'autre. Alors, c'est extrêmement intéressant de voir comment Caffarelli essaie de briser les tabous de l'époque pour montrer avec une lunette comment on regarde le ciel, etc. Le film n'a pas eu un très grand succès, a été très discuté. Effectivement, historiquement, lorsque l'on voit Bonaparte essayer de se convertir à l'islam en dansant avec des prêtres égyptiens, il y a des scènes assez ridicules. Et lors de ce festival où Chaïne avait essayé de le présenter, sentant que ça ne rendait pas ce contact des deux civilisations, et pourtant c'est des propos que vient de tenir le président de la République encore à l'heure actuelle, c'est-à-dire que nous allons vers un choc d'une civilisation occidentale et d'une civilisation islamique. C'est en plein le sujet. Et le malheureux Chaïne a dit que c'était à Perpignan. Perpignan est une ville où il y a eu beaucoup d'anciens d'Algérie qui se sont retirés de vieux coloniaux. Il a dit qu'il ne connaissait pas le public. Et sentant que le contact des civilisations, ça ne passait pas bien dans son discours, il a dit, et au fond, c'est une dénonciation du néocolonialisme. Alors évidemment, porté de siffler de la part d'une partie du public. Ce qui fait qu'en définitive, Adieu Bonaparte, qui est un film attachant, n'a pas eu la réputation et le succès qu'il aurait dû avoir. Il n'en reste pas moins que Chaïne, qui a continué à tourner après Adieu Bonaparte, reste probablement le meilleur réalisateur égyptien. J'en ai cité plusieurs dans mon dictionnaire des réalisateurs, mais par rapport à Barakat, dont les mélodrames, même sous-titrés, alors nous ne sont pas sous-titrés, alors c'est fini, car il est arrivé, faute de mieux, d'être contraint de voir des films égyptiens non sous-titrés. Je vous assure, c'est une épreuve. Mais quand ils sont sous-titrés, quelquefois c'est pire, parce que vous mettez des prêtés haut des propos qui ne sont pas ceux de la réalité. Mais c'est ça, la part du rêve. Vous savez, le cinéphile, je l'ai dit, c'est un voyeur qui aime rêver. Le cinéphile, il aime voir une Égypte qui sera celle du polar, qui sera celle de Toutankhamon, qui sera celle de Bonaparte dans son expédition. Bref, il faut qu'il rêve, qu'il sorte d'un monde qui est finalement gris. Seul le cinéma le lui permet.
Et puis il y a aussi l'Égypte biblique évoquée par Cécile Benemille, qui a quand même été inspiré aussi de nombreux cinéastes.
Oui, alors,
il y a cette vision bibliste que l'on a de l'Égypte.
Ce sont les dix commandements, Moïse contre Ramsès II. Alors ça, c'est vraiment un choc de titan. Effectivement, vous avez toute l'histoire biblique de l'Égypte, puisqu'il y a eu la captivité des Hébreux. Bref, l'Égypte recoupe tout. L'islam, la chrétienté, aussi bien les croisades que Napoléon. Et ne l'oubliez pas, tous les impérialismes se sont retrouvés à un moment donné ou à un autre en Égypte. Alexandre, Bonaparte, avant César et Rommel. Bref, l'Égypte, c'est à la fois une terre de contact des civilisations, de heurts des impérialismes, donc je crois qu'il y aura encore beaucoup de films sur l'Égypte à prévoir.
Merci beaucoup Jean Tullard. Je précise donc que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je précise également que sur le site internet de Canal Académie, vous trouverez une autre allocution de Jean Tullard, cette fois-ci sur justice et cinéma. Bonne journée.